Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre Angle mort. Angle mort, c'est un genre de, je pourrais dire comme, tu sais, des fois je dis un angle mort on the road. Là, c'est angle mort en reprise, en renaissance. Hey, by the way, si vous êtes dans la région des Bois-Francs, Drummondville, Victoriaville, je suis ce soir invité avec Mike Ward. Nous sommes les deux invités du podcast Couple ouvert qui a lieu dans une salle près de chez vous. Donc, j'oublie le nom de la salle comme telle. Je pourrais regarder puis le trouver. Mais de toute façon, je ne sais pas si vous êtes au courant ou peu importe. Là. Bref, regardez, je vais vous dire ça là, à l'instant même. Alors, ça s'appelle le cabaret Guy Aubert du Carré. 150 de Victoriaville. C'est à 20h30. Donc, Couple ouvert, c'est avec Thomas Lévesque et Stéphanie Vandelac, sa blonde. Et puis, c'est Mike et moi qui sommes les invités. Voilà. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler... D'abord, merci pour vos commentaires. Je te dis vraiment, depuis une semaine, il y a comme de l'action qui recommence. Je pense que juillet a été un mois particulièrement, soit très occupé pour les gens, par exemple, qui sont festivals, etc., parce qu'il y a beaucoup de monde à qui je parlais qui n'était pas disponible de rien, là, incluant pour venir à mon podcast. Puis, à cause de la température, moi, là, personnellement, là, je vais vous le dire, c'est spectaculaire comment des chaleurs maintenant m'accablent terriblement. Pourtant, je le répète, je dors bien, mais je fais peut-être de l'overtraining. J'ai jamais cru à cette notion-là, mais je l'ai tout le temps lu. Depuis que je m'entraîne dans les gyms, depuis que je bouge, on a tout le temps parlé de la notion de overtraining. Puis j'ai toujours cru que c'était juste ne pas laisser aux muscles le temps de récupérer comme il faut. Parce que c'est dans la phase de récupération que le muscle travaille puis grossit même. Hein? Ce qu'on appelle de l'hypertrophie musculaire. Là, l'idée de dire que tu t'entraînes avec des poids puis finalement... Tu pèsais 162, puis tu pèses 192. Il appelle ça l'hypertrophie musculaire. Puis ce que ça fait, c'est que l'entraînement brise tes cellules musculaires. Puis après ça, ben ils se régénèrent soit en plus grand nombre ou plus grosses. Ça, moi, aux dernières nouvelles, je savais pas c'était quoi, si ça a été trouvé. Mais à l'époque, là, quand je m'intéressais beaucoup à ça, ils savaient pas encore si c'était un ou l'autre. Ça fait que, pardon pour ces technicalités, mais en tout cas, pour ceux qui s'intéressent, ça fait que c'est comme ça que quelqu'un prend de la masse musculaire, si tu veux. C'est que tu brises ton muscle, puis il se... Eh bien, cette phase-là de reconstruction, mais c'est au repos que ça a lieu. Donc, si tu t'entraînes super fort tous les jours les mêmes muscles, la phase de repos, elle n'arrive jamais. Ça fait que quelqu'un pourrait dire, « Crime, j'en reviens pas. Je suis fort, parce que tu peux devenir plus fort, mais je reste maigre. » Écoute, j'ai vu un gars, là, au gym, je pense que c'était à Québec, parce que quand t'es Nautilus, tu sais, tu peux aller à tous les gyms. Ouais, c'était à Québec. Le gars-là, je vous le dis, il devait mesurer 5 et 9, puis il pesait maximum 170 livres. Puis il a fait 320 livres au squat, puis il a levé 400 quelques livres au deadlift. Deadlift, c'est soulever de terre. Là. Tu fais juste lever la barre, mais avec 4 plates de 20 kilos chaque barre, 8 plates. C'est, moi, de toute ma vie, c'est le gars le plus mince... Le moins, si tu veux, costaud que j'ai vu faire des charges extrêmement élevées, dans le sens que, tu sais, je veux dire, un vrai powerlifter, ça lève deux fois ça, mettons, là. Mais un vrai powerlifter, il y en a 12 au Québec, là, on se comprend. C'est pour le Nautilus que tu vois ces gars-là. Fait que ça m'a impressionné. Tabarouette, j'ai fait... Ben lui, probablement, que pour X raisons, bon, c'est peut-être génétique, mais il correspond à l'image que je vous parle. Prenez le dude que je suis en train de vous décrire, là, puis... Voyez-le au gym en train de faire des levées comme genre, voyons, il a l'air d'un bibliothécaire. En anglais, on dit pencil neck. Puis, alors, ça peut être de l'overtraining, c'est-à-dire que lui, il a tout le temps fait des grosses charges, il est motivé, il s'entraîne comme un malade, mais il n'a jamais laissé le repos suffisant. Ça fait qu'il grossit pas. C'est capoté, hein? C'est capoté. Autre anecdote du vendredi. Hier, je suis au resto, comme je vois souvent le matin. J'amène mon ordi, soit que je lis mes affaires, j'amène des fois mon iPad aussi, bon, peu importe. Je suis en arrière, tu sais. Puis là, je vois une itinérante qui arrive, puis c'est le magasin Berti. Chaussures Berti, qui est sur Sainte-Catherine, juste un peu avant Bleury. Donc, c'est début quartier des spectacles. Puis là, elle s'arrête. Puis moi, c'est de biais, c'est pas directement en face de moi, c'est de biais, de l'autre bord de la rue. Puis je suis convaincu que la fenêtre du magasin est ouverte. Ça arrive des fois, ça, tu sais, que la fenêtre est ouverte. C'est peut-être juste dans ma tête, on remarque, mais en tout cas. Puis qu'elle, là, est en train de voler des affaires directes. Je vois du linge qui revole. Puis, tu sais, je fais comme, ah, ben ouais, ça se peut pas. Puis comme... là, elle prend son temps. Là, je me dis, ils sont où? Ils sont-tu dans le backstore? Personne voit ça, ça n'a pas de sens. Petite boutique, là. Si t'es à une place dans la boutique, t'es partout, tu sais. Puis là, il y a une femme qui la suit, puis qui l'amène à la porte d'un magasin à côté, un magasin de souvenirs. Puis elle commence à y donner du stock. Elle rentre dans le magasin, elle prend des souliers, elle y donne, elle prend un foulard, elle y donne. Puis là, l'autre, elle se change en avant du magasin. Là, je fais, attends une minute, là. Elle vient tranquillement de voler des trucs à travers la fenêtre est ouverte. Puis l'autre, c'est qui? C'est une employée qui est en train de voler son boss pour donner ça à une itinérante? Ou c'est la propriétaire qui décide de dire, ben pauvre madame, puis je donne du stock à ses frais? Mais je suis fasciné, tu sais. Puis je me demande aussi tout le temps dans ces cas-là, mais je me dis tout le temps, c'est quoi l'intervention? Je fais quoi, moi, comme citoyen, là? Y a-tu de quoi à faire? Est-ce que je regarde ça en me disant, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie? Je sais pas. Et là, je commence en me disant, ah, ben, je vais aller voir le site Internet des deux. des deux magasins. Puis je réalise que c'est des magasins qui ouvrent à 10h, puis il est 9h30. Fait que là, je me lève, puis je m'en vais voir le magasin Berti, puis comme de raison, c'est un magasin où ce que t'as une entrée, tu sais, qui. Mettons, t'as Sainte-Catherine, là, tu rentres, mais cette entrée-là. Alors que c'est difficile à expliquer, c'est comme un U, si tu veux, tu sais, c'est-à-dire que c'est pas une grande vitrine plate. En un mot, la bonne femme, là, était zéro en train de voler rien. Juste rentrer, si tu veux, avant la porte, dans une espèce de creux qu'il y a, comme un abri, avant d'ouvrir la porte puis de rentrer dans le magasin. Donc, c'est pas vrai qu'elle a volé quoi que ce soit, mais ça avait carrément l'air de ça. Ça fait que ça, c'est comme... C'est pour te montrer que des fois, tu fais « Hey, c'est pas correct, ça, faut pas voler, t'as beau être dans la rue, rah, rah, rah. » Wow, c'est pas ça du tout, tu sais. Puis l'autre, par contre, je me demande, est-ce qu'elle elle a littéralement donné du stock puis qu'elle est juste une employée ou bien c'est la propriétaire du magasin? Je sais pas. Mais tout le temps dans ces questions-là, je me dis, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Je fais quoi, moi? Comme à un moment donné, je me souviens, à la même place, il y a un gars, il regarde dans la poubelle, il pogne une bouteille en vitre puis il y a crisse par terre. Clac! Il y a casse par terre. Là, moi, j'ai le goût d'aller le voir puis de dire, tu vas tout ramasser ça. C'est niaiseux. Il y a des familles ici, des fois, qui passent puis whatever. C'est terrible. En même temps, ce que j'ai découvert avec l'épisode, rappelez-vous, je vous avais parlé, là, le gars qui criait à tue-tête dans le métro, puis on dit non, tu fais rien, t'appelles 911, nous autres, en quelques secondes, on peut faire arrêter le train, garder les portes ouvertes, s'il y a du monde qui veut le partir, puis on envoie des agents. Puis j'ai fait, c'est vrai, on pense tout le temps que 911, tu signales ça pour, oh mon Dieu, attention, vol en cours, tu sais, des urgences, genre, non, ils ont le 911 a un accès à énormément de ressources. Qui fait en sorte qu'il y a des interventions qui peuvent être faites. Comme par exemple, là, il aurait pu dire, « Bon, ton dude, écoute, à quelque part, je pense pas qu'on va le pogner, mais on peut rapidement envoyer un message au service d'entretien, puis dans 10 minutes, la vitre va être ramassée. » Ça fait que c'est plate que ce gazé-là soit pas intercepté, mais au moins les dégâts qu'il a faits, ça fait que 9-1 ou 3-1 quand ça a un rapport avec la ville. Je crois que ça, c'est une autre petite joyeuse anecdote. Autre affaire aussi, c'est très pêle-mêle hein, aujourd'hui en passant. Là, c'est comme, je sais que je me fais souvent dire, bon, ben, si tu, même si tu n'as pas une éditoriale très haute, on aime ça quand tu fais un épisode. Ben, c'est ça que je fais aujourd'hui. J'ai visité l'hôtel qu'il y a en face de chez nous. Donc, ça s'appelle l'hôtel Honey Rose et Calvas. Écoute, le design de tout ça, c'est épouvantable. Puis c'est drôle, je n'étais même pas allé à la date. Je n'étais pas allé. Je ne sais pas pourquoi. L'autre bord de la rue, j'ai fait non. Je sais pas pourquoi. C'est comme, on dirait que c'est peut-être tellement hot que ça m'a paralysé, entre guillemets, de dire je vois pas là-dessus. Je sais pas. Une de mes hypothèses, c'est que l'été, j'ai déjà mon circuit. Je suis allé juste pourrir en arrière souvent, bon. Puis un hôtel, c'est pas comme, mettons, l'été, qui malheureusement est passager, ou un festival qui est de telle date à telle date. Ça fait que moi, si admettons, je dis, bon, mais moi, y aller juste en décembre, ben en décembre, ça va être là. Mais aïe, si tu voyais, c'est vraiment le plus bel hôtel à Montréal. Disons-le, tout à fait, c'est le plus bel hôtel à Montréal. C'est capoté. Ouais, c'est les designs des chambres, j'ai tout vu. J'étais avec le DG, là. Le design des chambres, il y a un resto en bas, ça, je te rentrerai vite demain, mais le resto au cinquième étage, capoté. Mon Dieu, qu'il y a de l'argent là-dedans. Mais c'est ça qui est le fun. C'est un commerce où tu te dis, normalement, un hôtel, t'en as pour 100 ans, si c'est pas 800, là. Ça fait que tu peux amortir sur un crime de bout ton investissement initial. Mais tu sais, c'est impressionnant. Tu sais, quand tu rentres dans un petit motel, tu fais, bon, ils ont fait des chambres, puis ils ont mis un crayon, puis là, c'est hot en tabarouette. Outre ça, je veux dire un mot sur Emmanuel Macron. Je vais faire ça vite, je ferai pas un long, et puis je pourrais. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est en train de s'imposer comme un président d'exception dans l'histoire de la France par sa résilience. Puis là, ce que je vais vous dire, c'est carrément objectif. C'est pas genre, ouais, tu dis ça parce que t'es d'accord avec ces mesures. Même pas. Il est en train de s'imposer comme un des seuls présidents qui, même s'il est très clivant, ce qui est le propre de n'importe quelle démocratie, qui se sera imposé contre la culture du statu quo. C'est-à-dire que... Puis il y avait encore un article dans The Economist qui disait comment ça se fait, ce matin, comment ça se fait que la France a d'aussi bons résultats, parce qu'économiquement, honnêtement, c'est une nouvelle après l'autre. Meilleur produit intérieur brut, des grosses compagnies qui arrivent pour faire des investissements, alors que nous autres, on pense, évidemment, c'est le propre d'un média de véhiculer ce qui va pas bien, là, tu sais, je veux dire, parce que tristement, les gens s'intéressent à ce qui va pas bien. Bombardier s'installe, vend des avions, c'est une mention, ça dure 40 secondes. C'est de même. Qu'est-ce que je fais? Ça, il faut vivre avec, mais peu importe. Mais dans le cas de la réforme des retraites, il a jamais lâché le bâton. Puis tu voyais que c'était comme... Tu sens que la gauche, quand elle est enragée, elle devient... Elle passe de haineuse à enragée à violente, là, tu sais, c'est un parcours assez classique, là. Puis là, tu vois comme vraiment, moi, je me disais, écoute, ça va tout péter, c'était les gilets jaunes, c'était... Puis il passe avec ça, là, puis il tient tout le temps son agenda, parce que c'est toutes les affaires qu'il avait dit qu'il ferait. Hein. Fait qu'après ça, est-ce qu'il a raison? Est-ce que la réforme de retraite, c'était nécessaire? Il y a tellement tout et son contraire, c'est impossible, je trouve, là, c'est impossible de prendre position comme tel. Mais il reste que, tu vois, comme là, il y a eu les émeutes, puis bon, une phrase déplacée ici et là, peut-être, oui, non. Je veux dire, je fais juste vous dire, vu de l'extérieur, là, ce qui est un peu exceptionnel pour quelqu'un qui, depuis 10 ans, est collé sur l'actualité française, au point que récemment, comme je vous dis, j'ai eu une baisse d'intérêt parce que la gauche France Insoumise est complètement sérieux, là. Tu sais, il y avait une couple d'éléments, là, Sandrine Rousseau, etc., qui était parfois très originale dans ce qu'elle proposait. Tu sais, elle se faisait des décrits, mais c'était quand même plus original que cave. Là, c'est plus cave qu'original. Tu sais, c'est même des erreurs factuelles hallucinantes. Mais bref. Ça fait que je trouve juste qu'à un moment donné, je l'ai toujours dit, le courage, c'est pas une qualité d'artiste. Parce que le courage, il faut que tu aies le choix entre deux options, puis tu prends celle qui est difficile. Si toi, tu dis, moi, si je chante pas, je vais rien foutre, ben c'est pas courageux de chanter, tu comprends? Fait que souvent, les artistes, c'est pas vrai qu'ils sont courageux de faire ce métier-là, c'est qu'ils envisagent absolument aucune autre alternative. Fait que il faut faire la différence, ben c'est la même affaire en politique. C'est-à-dire que le courage en politique, c'est de dire, regardez, là, je sais tout d'avance que ça va être difficile. Je sais tout d'avance qu'il y a une grande frange de la population qui va me tomber dessus. Ça va être atroce. Ça va être zéro, je retiens rien. Mais moi, c'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, je peux pas, tu sais, vous m'avez élu, puis après ça, pendant que j'avance, j'y vais à coup de sondage. Ah oui, je vous ai dit que je ferais ça, vous m'avez élu. Finalement, ouais, il y a 62 % qui ne sont pas contents. C'est ça la réforme de retraite? C'est la gauche qui disait, oui, mais là, vous allez, là, vraiment, c'est un affront à la démocratie. Regardez à quel point. Puis à chaque fois, je me disais, ah oui, prenez donc les sondages anti-immigration pour le fun. Vous allez capoter. Vous allez vous rendre compte que si vous voulez jouer avec les sondages, il y a plein d'affaires qu'à gauche, vous allez trouver ça drôle, puis plein d'affaires, vous allez dire, hey, hey, on n'est pas pour juste écouter les sondages. Fait qu'à un moment donné, là, la fin de l'entonnoir, c'est qu'il y a des élections, puis pendant les élections, ben s'il y a des décisions qui se prennent basées sur le fait que la majorité a dit oui, c'est lui qu'on veut. Ça peut pas être un système parfait, c'est pas une entreprise privée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que des fois, il y a un bout, tu fais, oh mon Dieu, ça fait pas mon affaire, pas en tout, puis là, oups, c'est un autre gouvernement après. Regarde, là, vois-tu, dans les derniers sondages, les conservateurs dominent comme jamais dans les sondages pour les élections fédérales. 38 % conservateurs, 27 les libéraux. C'est rare que tu vois ça. Fait que d'après moi, ça va switcher conservateur, puis ça va être une autre façon de... Puis les institutions vont garder ça droit du le plus possible. Bref. C'est fait que je veux juste dire, quand vous surveillez l'actualité française, là, gardez un petit peu un œil, cet angle-là, justement, pour paraphraser mon titre, que c'est fou à quel point Emmanuel Macron a le don de dire, criez autant que vous voulez, brûlez-en des chars. Moi, j'ai dit, c'est ça que ça prend pour la France. Puis les chiffres lui donnent raison actuellement. Ce qui lui donne tort, c'est ironique, ce qui lui donne tort, c'est les médias. Puis quand je dis les médias, c'est-à-dire les politiciens, puis tout le chiolage, radio, sociaux, etc. Pas en voulant dire une volonté concertée des médias, ben ça peut. Si t'es pour le monde, t'es plus à gauche, t'es un peu anti-Macron, tu sais. Mais quand je dis médias, c'est que c'est le bruit qui est rapporté, c'est leur job. C'est pas ce que je critique zéro. Mais les politiciens qui s'opposent, puis la population qui les suit, puis les gens qui... Tu sais, puis le vraiment... on le sent, là, c'est ça que je vous disais. Le sous-titre de l'article dans la revue The Economist, une revue anglaise, disait, grosso modo, malgré une propension à détester le changement, à être les champions du chiolage puis des revendications, comment ça se fait que la France est en train d'avoir de si bons chiffres, tu sais? C'est, fait que c'est peut-être que Macron, à quelque part, il s'est dit, contre vents et marées, là, c'est assez, là, c'est assez de jamais être capable de rien changer. De toujours dire, non, droit acquis, puis acquis sociaux, puis que... C'est assez. Alors, je le répète, on va peut-être entendre dans 3 ans que, ah, oh, mon Dieu, il a tout scrappé. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Gérer un pays, là, par les temps qui courent, c'est quasiment du hasard. C'est quasiment du hasard. Écoute, t'as le climat qui rentre d'un bord. T'as la montée de certains extrêmes de l'autre. T'as l'immigration qui rentre là-dedans, puis qui crée des conflits à l'interne, puis qui fait « oui, c'est super, ça nous en prend, non, il y en a trop. » Hey, rappelle-toi dans le temps des filles de Caleb, là, quand t'étais le maire du village, là, c'était quoi que tu faisais, là, tu sais? Puis c'est comme « aïe, aïe! » La mondialisation, c'est peut-être quelque chose qui n'aurait pas jamais dû avoir lieu. La mondialisation économique puis la mondialisation de population. Peut-être qu'au final, on va se rendre compte, éminemment trop tard, que tout ce qu'on a voulu faire, c'est comme tout le temps, genre... Tu sais, parce qu'au début, il y avait un article d'Edgar Morin, un philosophe français dans Le Monde, qui était un cours d'histoire, ma foi du bon Dieu, que j'ai lu ce matin. Je ne pensais pas que je vous en parlais, mais il va falloir que je le lise plus qu'une fois, là. Mais c'était comme, tabarouette, le gars, il a pris carrément le 20e siècle en 3 pages, là, tu sais. Puis il disait qu'une des phases, parce que l'immigration n'a jamais eu les mêmes intentions, c'était avoir de la main-d'œuvre bon marché. Quand l'industrialisation a monté, tout à coup, c'est comme, hey, ça prend des jobs, on va chercher des jobs ailleurs, on leur donne des petits salaires, ça fait baisser les salaires, tout ça, tu sais. Mais il y a eu ça, mais il y a eu plein d'autres raisons pour lesquelles... Puis c'est comme, peut-être qu'au final, on n'est pas fait pour ça. Pour des raisons de mœurs. Tu sais, quand tu dis, là, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit pour mon épisode de Croyances et pilules. Quand tu fais juste te ramener à l'essentiel de l'humain, pas la politique, pas l'économie, l'humain, puis que tu réalises que, ouais, ben qu'est-ce que tu veux, un être humain, ça a besoin de croire, parce que sinon, ça capote. Bien, je veux dire, c'est pas long que tu peux dire, ouais, un être humain, puis là, tu peux rajouter plein d'affaires après. C'est pas capable de dealer avec ça, ça peut pas ça, c'est fait pour être de même. Comprends-tu? Il y avait un prof de religion de l'université Stanford qui avait passé dans le New York Times. Ça m'a marqué, hein? qui avait dit la Bible, c'est beaucoup plus un livre sur l'étude de l'homme que l'étude de Dieu. En voulant dire, c'est bien plus un livre qui dit hey, marchez de même puis ça va marcher, parce qu'en dehors de ça, vous allez tout fucker. Qui peut argumenter que c'est faux? C'est comme gênant, là. Il y a un bout qui a de l'air vrai en tabarouette. Bye-bye!